Bonjour Delphine Horviller.
Bonjour.
Des conversations imaginaires pour soigner la terreur et le chagrin consécutif au massacre du 7 octobre. C'est votre livre, Delphine Horviller. C'est aussi un désarroi à voix haute. Alors je pourrais vous demander comment ça va mieux ?
Bah, je vous répondrai, ça dépend des jours. En fait, il y a des moments où effectivement je retrouve un peu un sol sous mes pieds, mais très souvent, et face à cette actualité terrible et ses répercussions un peu partout, je vous avoue que je me sens, comme beaucoup de gens, encore très déstabilisée.
Vous avez choisi des conversations imaginaires, mais vous faites référence aussi dans ces conversations imaginaires à des gens avec lesquels vous avez toujours des conversations, des souvenirs, vous faites parler vos grands-parents, il y a même un invité surprise, on l'entendra peut-être tout à l'heure pour détendre notre conversation. Pourquoi avoir choisi le dialogue imaginaire ? Pourquoi avoir choisi, plutôt que finalement faire un essai comme d'En vivre avec nos morts, l'ouvrage paru il y a 3 ans ?
Oui, il m'a semblé, après le 7 octobre, ce qui m'est apparu assez rapidement, c'est que j'avais un sentiment de conversation interrompue. Je savais plus à qui parler. J'avais l'impression que les mots sonnaient faux. À la fois les mots qui m'étaient adressés, parfois même les miens. Je trouvais pas les mots pour parler à mes enfants. J'avais l'impression que beaucoup de gens essayaient de contextualiser, justifier, comprendre l'horreur de ce qui venait de se passer. Et les mots qu'ils utilisaient étaient parfois même non seulement erronés, mais abjects. Et je me suis rendu compte que, faute de conversation avec d'autres, il y avait des milliers de conversations dans ma tête qui s'infiltraient, notamment, vous venez de le dire, des conversations avec les générations passées. Et les voix de mes grands-parents, disparus depuis des décennies maintenant, devenaient de plus en plus fortes. J'avais l'impression que leur traumatisme, c'est-à-dire celui de la guerre, celui dont j'avais, moi, hérité, prenait une place considérable dans mon imaginaire et j'ai voulu retranscrire ça.
Dans Vivre avec nos morts, je fais du rétro-pédalage, mais je pense que c'est un ouvrage important. Vous avez publié ceci, vous avez écrit ceci. Être rabbin, c'est vivre avec la mort, celle des autres, celle des vôtres, mais c'est surtout transmuer cette mort en leçon de vie pour ceux qui restent. Et finalement, ça n'a pas été suffisant d'écrire « Vivre avec nos morts » parce que le choc du 7 octobre vous a poussé à écrire davantage. Vous n'aviez pas toute la ressource finalement.
Non, mais je crois qu'on l'a jamais. Je pense que la mort, elle nous rattrape constamment et en permanence nous est posée la question de comment, enfin moi en tout cas c'est mon motto, comment on fait pour faire quand même gagner la vie, même quand la mort est là. C'est vrai que le 7 octobre, je me suis sentie très démunie parce que j'ai eu l'impression, y compris dans mon métier de rabbin, que mon propre désespoir m'empêchait un peu d'accompagner les autres. En fait, dans ma fonction rabbinique, quand j'accompagne les endeuillés ou des gens qui sont en chemin vers la mort, j'ai l'impression que ça me demande de être capable de me tenir debout. C'est-à-dire qu'il faut que moi, je ne m'effondre pas à leur côté. Il faut que je sois consciente de mes propres vulnérabilités, mais que je sois capable de tenir debout pour être un peu solide aux côtés de leur cassure. Et j'ai eu le sentiment, après le 7 octobre, que j'avais du mal à remplir cette fonction parce que j'accompagnais des gens en me sentant presque aussi brisée que je le raconte dans le livre, notamment dans l'accompagnement d'une femme qui s'appelle Rose, qui est aujourd'hui décédée.
Et c'est elle qui vous soutient. Elle a la maladie de Charcot. Il lui reste peu de temps à vivre, il faut dire les choses. Et vous l'assistez, vous l'accompagnez, et puis à un moment donné, vous vous rendez compte que c'est elle qui vous soutient, alors qu'elle parle avec un logiciel qui transforme ce qu'elle écrit en voix.
Oui, ça a été une grande leçon pour moi, et j'ai une immense reconnaissance pour ce qu'elle m'a offert dans ces derniers instants de vie. J'ai eu le sentiment que moi, en l'accompagnant, je vivais un renversement des fonctions, qu'elle s'est mise à prendre de mes nouvelles, à me soutenir, que la mort nous visitait toutes les deux, bien sûr, autrement. La sienne était imminente, physiquement, et moi j'avais l'impression qu'elle était partout dans mon monde. Et il y a quelque chose dans notre rencontre qui, à tout jamais, m'a changée en tant que femme, mais j'ai l'impression m'a aussi changée en tant que rabbin, en tant que pasteur, c'est-à-dire personne qui accompagne les autres dans les cycles de vie.
Vous en tirez, au fur et à mesure des pages, une sorte de morale ou un constat, c'est que dans les moments où on est tenté de recourir à la force, le souvenir de sa propre fragilité humaine est sans doute un garde-fou, c'est important pour la suite de notre entretien.
Oui, c'est quelque chose que j'ai toujours su, mais ça m'apparaît de plus en plus clairement, c'est que c'est vrai politiquement, mais aussi psychanalytiquement et humainement. Je crois qu'on est toujours fort, non pas de sa puissance, mais de sa capacité à gérer nos failles. En fait, ce qui nous fait grandir et ce qui nous stabilise dans l'existence, paradoxalement, c'est pas d'être indemne, mais c'est d'être capable de faire quelque chose à partir de nos handicaps, des moments où on a trébuché, des moments où on boite, de tout ce qui claudique dans notre vie. Alors ça peut paraître aux auditeurs un peu grandiloquent ou théorique tout ce que je dis maintenant, mais je suis persuadée qu'ils peuvent s'y connecter dans leur vie personnelle, qu'en fait on grandit quand on est capable de faire avec tout ce qu'on a loupé. Tous nos ratés.
Il y a un invité surprise dans ce recueil qui manque pas d'humour, parce que l'humour juif est quand même une ressource, y compris dans la tragédie. C'est quelqu'un qui chantait ceci.
Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien, ça se chante et ça se...
On est sur Radio Classique.
Ben oui, mais Delphine Orvillard, j'ai eu un double scrupule à convoquer Claude François. C'est c'est peut-être pas le moment quand on parle d'antisémitisme, de tragédie, de pogrom, ceux du 7 octobre. Et puis on est sur Radio Classique, mais il s'avère que une chanson, des chansons, peuvent être une ressource quand on va mal.
Ah ça, j'en ai la conviction que quand ça va pas bien, souvent, encore plus que les textes, toutes les conversations, la musique, les mélodies, les chansons doivent être convoquées. Alors moi, c'est vrai que j'ai une passion particulière pour la variété en général et les années yéyé.
Mais vous aimez Bach aussi. Hein.
Oui, j'aime d'autres. Mais c'est vrai que souvent, je me rends compte que dans ces petits textes qui paraissent complètement légers, superficiels, anodins, il y a de quoi puiser des sagesses. Alors, j'utilise Claude François dans le livre, je l'avoue, avec une certaine mauvaise foi, on peut appeler ça de l'humour juif, mais je vais convoquer Claude François, par exemple, pour parler de l'antisémitisme, en faisant croire que dans ses chansons, il y fait référence, notamment celle que vous venez de nous faire écouter, ça s'en va et ça revient.
L'antisémitisme.
Ça se chante, ça se danse, je ne sais pas, mais en tout cas, ça s'en va et ça revient. C'est comme une chanson populaire, on pourrait même dire une chanson populiste ces jours-ci, qui est parlée par plein de gens, même des gens qui ne reconnaissent pas qu'ils sont en train de le parler, mais en tout cas qui nourrissent cette haine-là récurrente. Et donc, les personnages de mon livre, avec lesquels j'ai des conversations imaginaires, ils font référence comme si, dans ce qu'on se transmettait dans la culture populaire, il y avait des très profondes sagesses politiques à explorer.
Ça s'en va et ça revient, c'est comme la guerre, c'est comme la guerre en Israël. Delphine Orvella, il y a ce massacre et ces morts, il y a ces otages encore en captivité, et il y a en représailles une guerre sans merci contre le Hamas qui fait, selon les estimations de l'ONU, 25 à 30 000 morts depuis le début du conflit. Ça n'est pas fini. Est-ce que ce conflit va trop loin ?
Mais ça, c'est pas nouveau. On a l'impression que ce conflit, il est ingérable et terrible parce que il éveille des passions extrêmes. En fait, aucun autre conflit au monde ne suscite cela. On donne maintenant des chiffres qui sont terribles et il y a aucune raison de les minimiser. Mais il faut juste aussi être conscient qu'il y a plein d'autres conflits sur la planète qui créent non seulement des morts, des catastrophes et puis des chiffres de pertes humaines insupportables qui sont plus grandes que celles du Proche-Orient. Mais on le sait, le Proche-Orient crée chez beaucoup d'entre nous, presque nous tous, suscite peut-être des fantômes de l'histoire avec un grand H, des phénomènes qui relèvent, je sais pas, qui devraient être étudiés par les psychanalystes, en réalité, pas seulement par les historiens. Qu'est-ce qui fait que ce conflit nous mobilise tellement qu'il a une puissance symbolique, passionnelle, telle ? Effectivement, on n'est pas prêt d'en voir la fin et je crains que voilà, ce qu'on est en train de vivre suscite sur des générations encore des haines ingérables.
Vous vous occupez des âmes aussi, c'est votre métier de rabbin, Delphine Orvillard. Un conflit comme celui-là, il crée des courts-circuits dans la tête, il mélange tout, il crée de la confusion, que ce soit dans la tête des juifs, dans la tête des amis des juifs, dans la tête de ce qu'on appelle les honnêtes gens. Je laisse les antisémites de côté. Et des questions qui s'entremêlent. Comment être solidaire d'Israël sans l'être de ce gouvernement? Comment rester à jamais marqué par les massacres du 7 octobre? Comment accepter dans le même temps que les représailles contre le Hamas fassent 30 000 morts? Tout se mélange. Comment les gens qui viennent à vous avec des questions là-dessus, comment vous essayez de les aider à faire la part des choses?
Ben, il faut d'abord commencer par reconnaître la complexité des choses que vous venez d'énoncer et se tenir à distance de toutes celles et ceux qui voudraient décrire ce conflit comme si c'était au choix un western ou un match de foot. Mais je suis sûre que vous les avez rencontrés comme moi, ces gens-là qui vous parlent de ce conflit comme si c'était si simple. Les bons, les méchants, les gentils, les cow-boys, les indiens, les forts, les faibles, les dominants, les dominés, ces grilles de lecture, elles sont toutes erronées pour parler du Proche-Orient.
Elles sont toutes cérébrales. J'ai entendu un spécialiste du cerveau dire une fois que quand on regardait un match de tennis, le cerveau avait besoin, pour des raisons dont je me souviens plus, de prendre parti.
Oui, oui. Puis je pense que les préjugés aussi en ont incroyablement besoin. Mmh. Ça simplifie les choses de la même manière qu'aujourd'hui ça simplifie les choses pour beaucoup de gens de greffer des grilles de lecture de d'histoires passées, de placer ce qu'on appelle parfois des points Godwin dans la conversation. Il faudrait à tout prix, pour dénoncer la politique israélienne, utiliser, selon certains, les mots du conflit de la Seconde Guerre mondiale, déclarer que la politique sioniste serait celle des nazis, qu'on aurait affaire à un génocide. Que, en fait, en réalité, il faut être capable de dénoncer, de critiquer, on peut tout à fait exprimer un avis, parfois un avis virulent, sans avoir besoin de greffer d'autres conflits sur celui-là, sans avoir besoin d'emprunter des mots qui n'ont rien à faire là, tout en étant capable, effectivement, d'exprimer une critique. Moi, c'est comme ça que j'en parle très souvent. Mais quand j'exprime cette critique, pour répondre à votre question, je le fais pas... Là, et c'est important, je le dis souvent aux gens de ma synagogue, de ma communauté, c'est précisément, bien souvent, par amour de ce pays, par attachement à ce pays, par connaissance de ce pays et de son histoire, que j'exprime une critique, parce que je considère, oui, aujourd'hui, qu'Israël a besoin de cette critique. Donc je ne la formule pas dans la volonté de le réduire en miettes, ce projet, mais précisément parce que je connais ce pays et que j'y suis attachée, je considère bien souvent qu'il a besoin de ma critique.
Comment expliquez-vous que dans la conversation, quand il s'agit de critiquer l'utilisation de la force par Israël, on convoque la tragédie de la Deuxième Guerre mondiale? Quelle est la raison profonde? J'ai même entendu un des esprits les plus brillants du XXe siècle, Edgar Morin, dans une conférence, expliquer qu'il était évidemment indigné par le sort des Palestiniens, mais qu'il était d'autant plus indigné que ce qui arrivait aux Palestiniens était perpétré par un peuple ou un État dont les citoyens et leurs ascendants avaient connu ce qu'ils avaient connu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi lier les deux?
Moi, je pense qu'il y a une folie dans cette façon dont on lit les deux. Effectivement, des ressources psychiques assez troublantes. D'abord, chez certaines personnes, il y a la volonté, d'une certaine manière, de se débarrasser de nos démons, de nos propres démons occidentaux, de se poser la question de comment ça a pu arriver ici, la Shoah, tout ce qui s'est passé pendant la guerre mondiale, une façon tout à coup de... Oui, relativiser un peu la façon dont un peuple peut tout à coup être sans, il y a un vent peut-être de folie s'empare d'un peuple et on voudrait le projeter ailleurs. Donc voilà, je pense qu'il y a effectivement des ressorts psychanalytiques à explorer qui nous échappent aujourd'hui. Et puis l'autre élément très important à explorer, c'est la question de l'exemplarité juive. Moi, je reçois un nombre considérable de courriers de gens qui m'expriment qu'ils avaient une attente vis-à-vis du peuple juif très particulière. C'est-à-dire qu'ils n'attendraient pas du tout dans une situation de guerre des Français, des Américains, des Hongrois, des Syriens de se comporter d'une façon particulière dans la guerre. Mais il y a une attente étrange des Juifs, comme si, à l'image de ce qu'ils avaient vécu, on attendrait de ce peuple une exemplarité particulière.
Faire des guerres plus propres.
Plus éthiques, plus propres. Mais qu'est-ce que c'est que cette attente? Vous voyez, souvent, je reçois du courrier de gens qui me disent qu'ils ne sont pas du tout antisémites, mais finalement, ils sont tellement philosémites, ce qui est tout aussi troublant, parce que pourquoi être particulièrement philosémite? Qu'est-ce que ça révèle des
Peut-être c'est l'attente vis-à-vis d'une armée, d'une démocratie. C'est peut-être aussi cette attente
qui se manifeste. Si on avait la même à l'égard de l'armée française, ou américaine, je dirais oui, mais bien souvent, quand on voit ce qu'ont pu être dans l'histoire, les bavures, les bévues de ces armées, elles semblent moins choquantes que quand il s'agit d'une armée dans laquelle luttent des juifs. Et ça, c'est troublant, cette attente d'une exemplarité juive. Elle révèle quelque chose de... Oui, je sais pas, d'étonnant. Pourquoi est-ce que l'armée d'Israël devrait être beau? On aurait des attentes à son égard différentes d'autres armées du monde. Encore une fois, je suis pas en train de soutenir son action, mais juste j'interroge cette exigence d'exemplarité qu'auraient certains à son égard.
Delphine Horviller, Comment ça va pas? C'est paru chez Grasset. Merci madame. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno qui va nous parler du procès Palmade, suivi de nos esprits libres, Lucie Robquin et Christophe Barbier. Merci.